c'est l'anniversaire de naissance et en même temps l'anniversaire du décès. Oui, le même jour, de la bienheureuse Marie-Rose Durocher, une Québécoise, qui est décédée en 1849, toute jeune à 38 ans, mais qui a fait de grandes choses, vraiment de grandes choses. C'est vraiment, plus on l'étudie, plus on lit, plus on la connaît, plus on l'aime, plus on l'apprécie. Quelle femme admirable! Elle a fondé les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. C'est une grande chose, mais ce qui fait sa grandeur, comme dit Yvette Chartrand, une Sœur des Saints-Noms de Jésus et de Marie, dans un article paru dans l'Église de Montréal il y a déjà une quinzaine d'années, elle rappelait que cette femme, Marie-Rose Durocher, de son nom de jeune fille, c'est Eulalie Durocher. Marie-Rose Durocher était humble et douce, et audacieuse et forte. Et vous allez voir, elle était audacieuse et forte. Puis elle ajoute que Marie-Rose Durocher a si bien évangélisé tout son être, elle s'est évangélisée elle-même, si on peut dire. Elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a mâchée, elle l'a absorbée, c'est devenu elle-même. Donc elle s'est si bien évangélisée, elle a si bien évangélisé tout son être qu'il n'était plus qu'amour, hein? Amour de Dieu puis amour des autres, et chacun se sentait comme dynamisé par la chaleur de son regard. Chacun était remué par l'accent miséricordieux de son cœur. C'était une femme d'une famille qui... j'aime pas les expressions avoir de la classe, c'est pas ça. C'était une famille qui avait reçu une bonne éducation et qui faisait de cette femme quelqu'un qui avait une beaucoup de qualités pour accomplir sa mission. Chacun la disait sainte, d'ailleurs, parce que être saint, c'est quoi, hein? C'est être signe de Dieu. C'est être si bien livré, si on peut dire, à la grâce de Dieu, à la présence de Dieu, à l'action de Dieu, à l'amour de Dieu, que sa vie ne traduise plus que Jésus-Christ, c'est s'être saint. Traduire Jésus-Christ par tout son être. C'est vivre si bien de la foi que les difficultés, les souffrances, les tourments deviennent autant de sources d'espérance. C'est pas facile. Mais ça se fait. Il y a des gens qui le font. Et Marie-Rose Durocher, cette Québécoise, l'a fait au début du siècle dernier, dans la première moitié. Oui, ces souffrances, ces tourments sont devenus autant de sources d'espérance. Parce que être saint, c'est pétrir, comme les boulangers, il a si bien son être d'amour qu'il devient pain de vie pour tous ceux et toutes celles qui s'en approchent. Être saint, c'est en un mot se laisser agir par Dieu. Se laisser agir par Dieu. C'est devenir signe de Dieu dans le monde. Attentive aux événements, éveillée aux besoins de son époque, Marie-Rose a déploré une espèce d'ignorance dans laquelle le peuple québécois, le peuple canadien, baignait dans ce temps-là, à la suite de la conquête, à la suite des persécutions. Il y avait une ignorance religieuse, hein? Car quantité de prêtres étaient retournés en France, faut pas l'oublier. Les vocations étaient arrêtées par les Anglais, hein? Les hommes ne pouvaient pas rentrer en religion. L'ignorance religieuse, hein, qui affligeait particulièrement les jeunes filles des campagnes. Ça touchait durement les familles, ça rongeait comme un cancer notre société d'alors. Je dis pas ça pour parler contre les Anglais, je dis ça parce que ce sont les faits et que Marie-Rose Durocher surgit parmi elles avec un courage. Elle n'a pas dit « Il ne se passe rien ». Elle a dit « Il se passe des choses, je vais y remédier ». Elle est intervenue donc dans l'histoire de notre peuple par son action courageuse, mais prudente. Et pour mieux s'attaquer au mal, elle a fondé une congrégation de religieuses enseignantes qui a vite ouvert des écoles, des pensionnats aussi, pour jeunes filles des campagnes. C'est dire que bien avant le 20e siècle, Mère Marie-Rose, on peut le dire, a servi de façon lucide et adaptée la cause de la promotion de la femme. La promotion de la femme, c'est pas qu'elle puisse aller danser tous les soirs et faire tout ce qu'elle veut. C'est pas ça la promotion de la femme. La promotion de la femme, c'est pas qu'elle puisse ne pas s'occuper de ses enfants. C'est pas ça la promotion de la femme. La promotion de la femme, c'est vraiment ce que Mère Marie-Rose a fait. Travailler à la cause de la promotion de la femme. Elle a aidé la femme à sortir de l'ignorance. Elle a veillé à la formation de son esprit. Oui, de son esprit puis de son cœur. Et elle l'a ouverte aux valeurs humaines et religieuses les plus aptes à faire mûrir en elle la femme, une vraie femme, dans toute sa splendeur, l'épouse, dans tout ce qu'elle a de grandiose, la mère, dans ce qu'elle a de fantastique, cette participation à la création et à l'éducation d'enfants. Tout ça dans la ligne la plus près de l'Évangile. Et ainsi, par sa vie et par son œuvre, Marie-Rose du Rocher, on peut le dire, a largement contribué à transformer la société de son temps. Puis elle nous invite aujourd'hui, toujours, oui, à promouvoir l'éducation chrétienne de nos jeunes. L'éducation chrétienne de nos jeunes. Chrétienne. Dans la famille, à l'école. Pourquoi? Pour que croisse en eux la grâce de leur baptême, et qu'ils deviennent ainsi à leur tour, ce que je viens de dire, des signes de Dieu dans l'Église et dans le monde, c'est-à-dire des saints. C'est très grave. Oh, on dit ce sont des mots. Ce ne sont pas des mots. Mère Marie-Rose, comme je vous ai dit tout à l'heure, Eulalie du Rocher, est donc née au Québec à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Elle est bien chez nous. Le 6 octobre 1811, il y a un peu moins de 200 ans, quoi. Sa jeunesse s'écoule d'abord dans la paroisse natale, puis à Belœil, au presbytère de son frère, qui est prêtre, l'abbé Théophile du Rocher. Elle accepte de fonder une communauté, donc, dont les membres vont partager son idéal de vie religieuse et son désir d'apostolat pour l'éducation chrétienne de la jeunesse. Son idée est appuyée par des oblats de Marie Immaculée, nouvellement arrivés au pays, qui viennent d'être fondés en France par Mgr de Masnon. Puis, elle a aussi l'appui de Mgr Ignace Bourget, évidemment, l'évêque de Montréal, qui est préoccupé par l'insuffisance des moyens d'éducation pour les jeunes filles. Alors, au début, il y a deux compagnes qui se joignent à elle. Je donne les noms. Henriette Serré, C-E accent aigu, R-E accent aigu, et Mélodie Dufresne. Quel curieux prénom, hein, Mélodie Dufresne. En octobre 1843, apparaît à Longueuil la nouvelle congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Il y a plus de 150 ans. Et c'est le 8 décembre 1844, l'année suivante, dans l'église Saint-Antoine de Longueuil, que Mère Marie-Rose, Sœur Marie-Madeleine et Sœur Marie-Agnès, elles ont de beaux noms, hein, Marie-Rose, Marie-Madeleine, Marie-Agnès. Elles font leur profession religieuse devant Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal. Et c'est le même jour que cet évêque érige, si on peut dire canoniquement, c'est-à-dire légalement selon l'Église, la congrégation de ces religieuses. Vous avez déjà vu l'immense bâtiment qu'elles occupent à flanc de montagne à Outremont. C'est immense. La première fois que j'y suis allé, j'étais enfant. On m'avait demandé d'aller servir la messe. Et quand je suis entré dans cette chapelle, qui est comme une basilique romaine, pas romane, mais bien romaine, était remplie de sœurs. Elles portaient le costume à l'époque. Et ce qui m'avait impressionné, c'était la qualité de leur chant, l'unité extraordinaire avec laquelle elle prononçait toutes ses notes, toutes ses paroles, à la perfection, à la perfection. C'était pour des funérailles d'une religieuse. Je crois qu'il y avait 3 personnes laïques qui assistaient aux funérailles de cette pauvre sœur oubliée du monde, oubliée de tous, qui avait servi peut-être pendant 60 ans, dans l'humilité, la discrétion. Que l'amour de Dieu puis de leurs concitoyens, c'est le motif profond, hein, d'un dévouement puis d'une générosité que les trois fondatrices de tout à l'heure, puis les religieuses qui vont les suivre, ont poussé souvent jusqu'à l'héroïsme. Il y a de grandes religieuses qui sont nées dans cette communauté. Qu'on pense à Sœur Marie Stéphane, on revient toujours à Sœur Marie Stéphane, fondatrice de l'école Vincent d'Indy, cette grande école de musique, encore à flanc de montagne, et qui appartient maintenant à l'Université de Montréal. À la mort de Mère Marie-Rose, donc le 6 octobre, le jour de son, même de son anniversaire, elle avait 38 ans, donc il y a pour ainsi dire 150 ans, quoi, en 1849, eh bien la communauté est organisée, elle est stable, elle est fondée sur l'humilité, sur la bonté, la patience dans les épreuves, la confiance en Dieu. Ce sont des choses rares aujourd'hui, hein? Établir un groupe sur l'humilité, la bonté, la patience dans les épreuves, puis la confiance en Dieu. Si on fondait tout ce qu'on fonde, si on établissait tout ce qu'on établit sur ces quatre piliers, ça changerait la société. Les sœurs des Saints-Noms Jésus et de Marie se sont multipliées, puis elles œuvrent aujourd'hui au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, au Brésil, au Pérou, en Haïti. Elles ont des vocations ailleurs, d'ailleurs. L'éducation chrétienne demeure évidemment leur œuvre privilégiée. Mère Marie-Rose du Rocher a été béatifiée le 23 mai 1982. Et sa fête liturgique est évidemment le 6 octobre, puisqu'elle est née le 6 octobre et qu'elle est décédée le 6 octobre. Vous dire que Marie-Rose du Rocher est loin d'être une sainte triste, c'est une sainte affable et d'humeur joyeuse. Elle est douée d'un charme naturel, vous verrez, qui lui attire l'affection de tous. C'est une sœur qui l'a connue enfant et qui a écrit, j'aime bien ça, elle déjà, quand elle était enfant, elle n'était pas sainte, mais elle était d'une simplicité admirable et d'une gaieté charmante. Et puis un prêtre, qui l'a bien connue à Saint-Antoine et à Belœil, dit qu'elle avait des manières aisées, un visage serein, où se peignait la paix de son âme. Ce sont des qualités bien belles, et elle a la dignité innée d'un chef de file. Même les enfants reconnaissent en elle quelqu'un qui inspire respect et confiance, et elle avait des manières aisées, sans affectation, sans prétention, qui frappent, à n'en pas douter, tous ceux qui se l'approchent. Et un de ceux-là, c'est l'abbé Lecourt, qui la rencontre souvent au presbytère de Belœil, puis il rappelle sa politesse exquise, son tact, sa simplicité admirable. Et d'après son frère aîné, Eusèbe du Rocher, là, un prêtre, qui est mort en 1879, dit Eulalie, c'était son nom de baptême, Eulalie s'adapte facilement aux personnes de son entourage et est toujours prête à se conformer à leurs désirs. Et cette facilité d'adaptation transparaît dans sa correspondance, que ce soit avec un évêque, avec un marchand, un seigneur de Rouville, un curé irrité ou encore une sœur malade. Toujours, elle sait trouver la note juste et le ton approprié, et elle sait garder la maîtrise d'elle-même, elle demeure courtoise, même avec des servantes désagréables ou à l'occasion, avec des sœurs mécontentes, où ça existe des sœurs mécontentes, ça passe, ça arrive des fois, hein? Faut pas le dire trop fort. Le père et la mère d'Eulalie du Rocher, mère Marie-Rose du Rocher, se sont impliqués à lui inculquer, jeune, une piété chrétienne solide. Puis aussi, ce qui est pas une mauvaise chose, à mon avis, le sens de l'obéissance. Mais la petite Eulalie ne possédait pas la sainteté innée. Elle a des défauts à corriger, des qualités à développer. Et dans ses jeunes années, elle, qui est la plus jeune d'une famille nombreuse, la famille du Rocher, n'a rien de la petite fille posée, sérieuse, qu'on peut imaginer. Ses vêtements sont souvent en désordre, dit-on. Puis de la vie de son père, rien ne laisse deviner en elle cette dame parfaite, comme on dit, que sera Mère Marie-Rose. Elle reçoit en cadeau, toute jeune, un cheval, qu'elle appelle César. Elle apprend à monter son César en Amazone. Vous savez, les deux jambes du même côté. Puis ça, de façon très distinguée. Beaucoup plus tard, alors qu'elle est supérieure à Longueuil, c'est l'étonnement et la joie de son entourage lorsqu'elle permet à Mademoiselle de Rouville, une nouvelle postulante, Mademoiselle de Rouville, qui n'était pas n'importe qui dans la société de la Rive-Sud, mais de monter son cheval Dick pour faire quelques tours sur le terrain du couvent. Et pourquoi pas? C'était quelque chose d'un peu surprenant chez des sœurs à l'époque. Il faut bien comprendre que les sœurs actives, comme les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, quelques siècles plus tôt, étaient les premières à sortir de leur cloître. Les sœurs étaient cloîtrées jusqu'à... quoi? Jusqu'au XVIIe siècle. En général, les frères plus jeunes de Lally du Rocher voient leurs sœurs d'un œil assez perspicace. Hein? On peut en juger par le témoignage suivant qui a été apporté par Calixte du Rocher, son frère, en évoquant les souvenirs de l'époque où il était, on pourrait dire, le coursier rapide, tirant sa petite sœur assise dans la charrette. Il soulignait que Lally était une enfant très obstinée, un peu à la façon de Thérèse Martin, Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce qu'elle voulait, elle ne le voulait pas à demi, mais elle parvenait ordinairement à ses fins. C'était une petite fille décidée. Elle était de nature vive et volontaire. Elle aurait bien pu devenir une personne fort différente de cette religieuse humble et patiente qu'on peut admirer aujourd'hui par tous les témoignages de ceux qui l'ont connue. Ses efforts, d'ailleurs, à réprimer les excès de sa nature, qui était très ardente, était secondé par le zèle, d'un prêtre, le père Allard, qui ne laissait passer aucune occasion de la former à l'humilité. La lutte a été longue et pénible. À peine un an avant sa mort, à la clôture de sa retraite annuelle, elle écrivait à Mgr Bourget, je vous rappelle, elle est morte toute jeune, à 38 ans, elle écrivait donc à son évêque, « Ma principale résolution est de n'agir en tout qu'après avoir reconnu mon incapacité et demandé l'Esprit de Dieu. Je crois bien que c'est la prière qu'on devrait faire devant toute action qu'on a à faire. N'agir en tout qu'après avoir reconnu notre incapacité. Puis demander que l'Esprit de Dieu nous éclaire pour faire ce qu'on a à faire. C'est une belle leçon qu'elle nous donne, cette Québécoise. Donc, Mademoiselle Eulalie du Rocher était admirée de la haute bourgeoisie de l'endroit. Je vais le dire, c'est une fille de la haute société, c'est une snob, mais non, c'est une fille qui a reçu, heureusement, une bonne éducation. Mais ceux qui ne faisaient pas partie du cercle de ses intimes ne lui ménageaient justement pas leur critique. On la trouvait fière et distante, c'est toujours la critique. En fait, c'est à toute la famille du Rocher qu'on pouvait appliquer ces épithètes, et pour cause, et sans aucune teinte de snobisme, les du Rocher ont la réputation d'être des citoyens de conditions aisées, remarquables de dignité et de prudence. On ne voit pas les enfants du Rocher courir les chemins, non. Ils doivent s'amuser chez eux. Puis si, à l'intérieur, il leur est défendu de crier et de faire du bruit, mais dehors, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Il n'a pas dû être facile pour elle d'aller à l'encontre de sa propre famille, issue d'un milieu si digne et si fier. Et de quel courage et de quelle audace, hein, elle a fait preuve en choisissant quoi? La pauvreté. La pauvreté, la folie. La folie qu'elle va vivre à Longueuil. Avant elle, aucun du Rocher n'avait jamais donné prise au ridicule. Et d'où a pu venir ce courage de résister aux pressions exercées sur elle par son père et ses frères prêtres, qui étaient des hommes sages et clairvoyants? Ça vient de sa vision de foi, nulle part ailleurs. Elle a la foi, elle lit l'Évangile, puis elle le met en pratique. C'est tout, c'est simple. Qu'est-ce qui l'appelle à quitter la sécurité puis le confort de Belœil, où chacun la révère puis elle l'admire pour les privations puis les épreuves de Longueuil? Elle s'en va dans les privations, dans les épreuves à Longueuil. Et la foi qu'elle a reçue à son baptême et que ses parents profondément chrétiens ont su entretenir est devenue chez Eulalie la pierre de touche de toute son existence. Elle est donc destinée à fonder une congrégation de religieuses vouée au saint nom de Jésus et de Marie. Elle est très tôt un témoin ardent de cet amour gratuit du Christ. et de Marie, sa mère. Et ses parents l'amènent très tôt à l'église, et lorsqu'elle est en mesure de s'y rendre seule, bien la petite ne craint pas de parcourir 1,5 milles à pied, quand son cheval César ne peut pas lui conduire. Plus tard, elle est une source d'édification pour les paroissiens de Belœil, qui l'observent dans ses visites quotidiennes à l'église. Sa réputation de sainteté se fonde d'ailleurs sur des faits précis. Je donne un exemple. Un jour, une jeune femme qui est source plutôt de scandale dans les régions est si impressionnée à la vue de Eulalie en prière que, la grâce aidant, elle décide de changer de vie et se convertit effectivement. L'exemple, c'est que son exemple montrait qu'elle était heureuse, non pas qu'elle était triste, elle était heureuse. Elle visait la sainteté. On a écrit d'elle, notre première supérieure avait un grand amour pour Jésus-Christ, et elle se levait souvent la nuit pour prier. C'est beaucoup de sœurs, plusieurs sœurs qui disaient ça. Quelques-unes allaient jusqu'à l'épier lorsqu'elles ne le savaient pas, là. Puis, elle l'épiait, puis, parce qu'il faisait bon, disait-elle, de l'avoir prié devant le Saint-Sacrement. Puis, il y a une anecdote assez sympathique. Longtemps après la mort de Mère Marie-Rose, c'est Sœur Marie-Ignace qui avait l'habitude de s'agenouiller près de la balustrade, à l'endroit même où elle l'avait vue si souvent en adoration. Et plusieurs sœurs ont adopté cette pratique lorsqu'elles visitent la chapelle de Longueuil. Peut-être qu'elles y reçoivent des faveurs semblables à celles que Sœur Ignace exprimait. Elle disait, Sœur Marie-Ignace disait, « Quand je m'agenouille à l'endroit même où je l'ai vue si souvent prosternée en adoration profonde, je reçois toujours de nouvelles lumières et une augmentation d'amour de Dieu, là plus qu'ailleurs. » Que de sœurs ont été frappées par la transformation qui paraissait dans tout son extérieur lorsqu'elle revenait de la Sainte Communion, Mère Marie-Rose. Afin d'entourer la liturgie de toute la solennité qui lui convient, Mère Marie-Rose, ainsi que les premières sœurs, ont demandé au Père Allard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un musicien, de leur donner des leçons de chant sacré. C'est comme ça que les répétitions ont commencé, puis c'est depuis, peut dire, la fin de mars 1845 que datent ces beaux chants qui sont de tradition dans la communauté, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, ce qui m'avait tellement frappé au début des années 30. Si nous n'avions pas les prêtres, c'est ce qu'elle disait, que ferions-nous? Son amour pour Jésus lui inspire un profond respect pour les prêtres. C'est Mgr Bourget qui pouvait écrire, son respect, sa soumission à l'autorité ecclésiastique était sans borne, et sa foi si éclairée, oui, si éclairée, lui faisait voir dans tous les supérieurs les représentants de Jésus-Christ. On dirait que ces temps-là sont presque terminés. Mais Mère Marie-Rose saisit clairement jusqu'où s'étend la juridiction de ses supérieurs ecclésiastiques. Elle n'obéit pas d'une façon bête. Mère Marie-Rose fait tout ce qu'elle peut pour faire observer la règle. C'est pour elle la preuve de son grand amour de Dieu. Elle n'a pas la prétention d'étouffer le naturel. Il ne s'agit pas d'écraser les sœurs. Elle encourage ses sœurs à se dépasser dans leur formation humaine et spirituelle d'ailleurs. Et pour le reste, elle laisse aux sœurs le soin de développer leur physionomie propre et leur aptitude. Elle a beaucoup d'intelligence et de compréhension. C'est une femme supérieure. Dieu a préparé avec soin cette Eulalie du Rocher, Mère Marie-Rose, à son rôle de fondatrice d'une communauté religieuse. Et elle n'est âgée que de 18 ans à la mort de sa mère, puis elle reste l'unique fille dans la maison. Elle endosse donc la responsabilité d'une grande famille. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé sa vocation. Elle a grandi dans la perfection dès le temps où elle était une jeune fille. Et on raconte que les larmes ruisselaient de tous les yeux, mais chacun comprenait que c'était une dernière preuve de l'humilité et de la tendresse de leur mère quand elle demandait pardon. Mère Marie-Rose apporte occasionnellement une aide spirituelle aux personnes qui sont dans le besoin. L'abbé Lecourt exprime sa reconnaissance. Son cœur s'étend à tout le monde. L'abbé Lecourt disait « Si je suis prêtre aujourd'hui, je le dois en grande partie à ses bonnes prières et à ses conseils. » Ces conseils, j'insiste là-dessus, c'est assez étonnant. Dans ce domaine, il y a bien d'autres personnes aussi qui doivent à Mère Marie-Rose du Rocher, qui doivent beaucoup à Marie-Rose du Rocher. Une dame Lemieux, exemple, qui est mère d'une des religieuses, choisit Mère Marie-Rose comme directeur spirituel, c'est pas peu dire, hein? C'est surprenant, il y a 150 ans. Après avoir rendu visite à sa fille religieuse, Madame Lemieux montait à l'étage. Elle avait de longs entretiens avec Mère Marie-Rose, afin de renouveler auprès d'elle sa foi puis son courage. Et aussi, c'est une anecdote amusante, dans la même famille, le fils de Madame Lemieux, qui avait 18 ans, lui, il peut pas se consoler après la profession religieuse de sa sœur. Alors seule, Mère Marie-Rose réussit vraiment à le faire sourire après avoir causé longuement avec lui pour le réconforter. Et plus tard, quand il parle de la vocation religieuse de sa sœur avec ses amis, il va jusqu'à dire, écoutez bien ça, c'est un jeune homme de 18 ans, je regrette le départ de ma sœur pour le couvent. Mais une pensée me console, c'est qu'elle a pour supérieure une vraie sainte. Alors Longueuil est alors très pauvre, hein. Le père Allard, dans une de ses conférences aux religieuses, leur dit ceci, c'est très important. « Mes sœurs, il ne vous est pas difficile de pratiquer la pauvreté quand vous manquez de tout. La pauvreté vous garde. Mais plus tard, lorsque votre congrégation jouira d'une certaine aisance, c'est alors qu'il sera difficile, et que pour l'observer, vous aurez besoin d'en avoir l'esprit et l'amour. » Mère Marie-Rose comprend l'esprit de pauvreté religieuse comme un esprit de partage. À Longueuil, il y a toutes sortes de travaux manuels à faire. On raconte que la fondatrice était la première en tout. C'est ce qu'écrit Mère Véronique. Elle dit « Quand une sœur a besoin d'aide pour laver le parquet, Mère Marie-Rose apparaît, brosse, avec une brosse puis un seau à la main. C'est l'infirmière qui remarque aussi que les tâches les plus répugnantes sont toujours recherchées par quelqu'un qui vient l'aider bénévolement, puis c'est Mère Marie-Rose la fondatrice. Elle se prenait pas pour une autre. Il n'y a pas de prétention chez elle. Pas de prétention pour un sou. Mère Marie-Rose entretient une correspondance suivie avec celles qui sont envoyées en mission, car elle en expédie à l'étranger. Et puis, elle les assure sans cesse de son affection puis son intérêt pour leur bien-être. Elle les met au courant du bien qui se fait dans son institut, puis au Québec. Et durant son séjour à Belle-Oeil, Mère Marie-Rose a peu à peu distribué la plupart de ses vêtements aux pauvres de la paroisse. Et devenue religieuse, elle se dépouille généreusement de tous ses petits articles à son usage, en faveur de celles qui partent en mission. Elle donne un jour à une compagne souffrante un sirop pour le rhume préparé spécialement pour elle. Elle prétexte que cette sœur en a plus besoin qu'elle. C'est ce qu'on appelle la sainteté dans les petites choses, hein? Vous vous souvenez, Thérèse Martin, Thérèse Enfant Jésus, la sainteté dans les petites choses. Elle sent le besoin de partager aussi comme congrégation, et quand elle apprend que les pères oblats sont dans le besoin, elle puise dans le trésor, pourtant bien maigre de la communauté. Elle envoie de l'aide aux paroisses, alors très pauvres, de Pittsburgh et de Bytown, c'est-à-dire d'Ottawa. Quand j'ai commencé à faire mon travail à Radio Ville-Marie, j'avais besoin de documents, de livres, et particulièrement de dictionnaires, d'encyclopédies religieuses et tout ça. C'est les sœurs de la congrégation des saints noms de Jésus et de Marie qui sont venues à mon secours, elles que je ne connaissais pas. Des communautés auxquelles j'ai rendu de grands services, choses étranges ne se sont pas présentées. Curieux, le monde est à l'envers, des fois on dirait, Dieu se moque de nous. Dieu a toujours un sourire en coin, je crois. Oui, probablement. C'est un Père bienveillant, un peu taquin. Mère Marie-Rose est pleinement consciente que ses sœurs ont besoin de repos et de détente. Cette bienheureuse Marie-Rose s'occupe activement d'organiser des récréations pour les maîtresses, aussi bien que pour les étudiantes. Mais Marie-Rose comprend aussi que les sœurs qui ne se sentent pas acceptées par le groupe trouvent les récréations pénibles. Alors, ces jeunes sœurs, bien, elles leur réservent une bienvenue, là, avec beaucoup de chaleur et de tendresse. Et elles discernent vite les états d'âme de ces sœurs. Et Mère Marie-Rose, elle s'inquiète quand elle remarque de la tristesse dans les yeux d'une sœur. Puis elle a une technique bien sympathique. Hein? Elle emploie quelquefois ce stratagème pour les faire sourire. Elle voit une sœur un peu triste, alors elle baisse la tête pour la regarder par-dessus ses lunettes. Elle portait des lunettes rondes, rondes. Puis mieux vaut plonger son œil serein dans celui qui lui semble inquiet, c'est ce qu'elle disait. Alors, si la tristesse persiste jusqu'au soir, elle se fait un devoir de rencontrer cette sœur avant la nuit, afin de lui assurer un sommeil reposant. Et les religieuses s'accordent à dire comme elle nous reprenait sans nous froisser, bien souvent tout en riant. Mais tout de même, nous en tirions notre profit. Alors, elle connaît, en somme, ce que je veux dire, les besoins élémentaires de la nature humaine. C'est une vraie sainte, concrète, incarnée. Et c'est quand même surprenant qu'au milieu d'occupations et d'inquiétudes absolument archi-nombreuses, elle peut témoigner de tant d'intérêt puis de tant d'affection. On pourrait croire qu'avec une supérieure d'une sainteté finalement si imminente, la vie communautaire de Longueuil était très agréable, c'était peut-être un jardin de roses, mais, certainement pas. Parce que les saints ne sont pas à l'abri des aspérités de la vie quotidienne. Et les personnes qui vivent avec eux ne se transforment pas en saints du jour au lendemain. Mère Marie-Rose connaît les blessures de la critique de la part de certains ennemis à l'extérieur et même d'amis à l'intérieur, jusqu'à son frère Théophile qui est prêtre, qui la blesse maintes fois, elle qui est d'une nature finalement bien sensible. Il y a le curé Brassard aussi qui mène la jeune communauté à deux pas de sa perte. Même ses sœurs, oui, les religieuses ne sont pas toujours de son avis. Quelquefois contrariée, disputée, même par une sœur ancienne, Mère Marie-Rose répond toujours avec douceur. C'est ce qu'on raconte. On dit quelques religieuses, par jalousie, sans doute, disent de la fondatrice, elle est supérieure, mais ce n'est pas parce qu'elle a donné de l'argent à la communauté, car elle n'a presque rien apporté. Vous savez, il fallait apporter de l'argent, une dot, dans ce temps-là. Imaginez que des sœurs disent des choses idiotes comme ça. Alors, c'est pour Mère Marie-Rose une double souffrance. D'abord, cette affirmation était fausse, parce que Eulalie du Rocher, Mère Marie-Rose, a apporté 11 000 francs, on comptait en francs à l'époque, à la communauté, et c'était là sa part de l'héritage familial. Mais ce qui la peine plus profondément, c'est très important, ça, c'est de constater à quel point l'échelle de valeur de certaines sœurs, je dis bien certaines sœurs, étaient teintées de matérialisme. Elles étaient rentrées chez les religieuses, mais leur cœur n'était pas converti encore. Vous savez qu'il y a des sœurs qui deviennent de vraies sœurs seulement au bout de 10 ans, et des prêtres, la même chose, et puis nous, les laïcs, on a de la misère à devenir des vrais laïcs. Souvent, on n'y arrive même pas avant notre mort. Hein? Alors, tout en partageant le pain difficile, sec, de la critique, qui est le lot des pécheurs comme des saints, Mère Marie-Rose demeure sereine, pleine de charité, avec toutes ses sœurs, avec chacune. Elle prouve qu'elle agit purement pour Dieu. Dans la jeune communauté, les vocations sont peu nombreuses. Puis le travail considérable, et cependant la fondatrice se montre très prudente dans le choix des jeunes filles qui désirent se joindre à la communauté. C'est pas parce qu'il y en a peu qu'il faut en prendre beaucoup, il faut toujours choisir. Et elle sait reconduire dans le monde celles qui ne font pas l'affaire. Qu'il n'y ait rien de singulier dans votre conduite, disait-elle à une sœur qui devait se retirer, ou qu'elle renvoyait. N'imitez pas ces personnes qui, après avoir passé quelques mois dans un couvent, s'habillent différemment des autres, même d'une manière ridicule. Mais non, vous allez retourner dans le monde, et je vous dirai, suivez la mode, mais de loin comme il se doit. » Elle écrit aussi des lettres en faveur de ses postulantes et ses novices qui doivent retourner chez elle. Puis elle fait des démarches pour leur obtenir un emploi quand c'est nécessaire. Alors, il existe donc chez Mère Marie-Rose, ce qu'on peut dire une tranquillité d'âme, qui se manifeste dans la liberté avec laquelle elle sert Dieu et le prochain. Le prochain, pour elle, c'est toutes les personnes avec lesquelles elle vit en contact, sans exception de classe sociale, de religion, d'âge, de nationalité ou de sexe. Mais par-dessus tout, le prochain, pour elle, c'était les pauvres et les impuissants, en qui elle voyait qui? Notre Seigneur lui-même. C'est à moi que vous le faites. C'est Jésus qui le dit au chapitre 25 de Saint Matthieu. Relisez ça si c'est beau. Comme c'est beau, ces textes de l'Évangile. Et en plus des pauvres matériellement, bien, il y avait aussi les défavorisés de toutes sortes. Il y avait les orphelins, qu'elle aimait beaucoup, les malades, les souffrants qui recevaient des preuves constantes de sa tendresse. La pauvreté qui, aux yeux de Mère Marie-Rose, apparaissait comme la plus grande des misères, pour elle, c'était l'ignorance. Ça, c'est la plus grande pauvreté, l'ignorance. Et par-dessus tout, l'ignorance en matière de foi. Elle serait terrifiée de voir l'ignorance de la foi chez tant de nos jeunes d'aujourd'hui, et tant de nos adultes même. Il y avait bien à cette époque, sur les rives du Saint-Laurent, quelques pensionnats de jeunes filles dirigées par les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Il y avait aussi quelques rares écoles tenues par des laïcs, mais leur nombre était nettement insuffisant. Elle se rend compte qu'une nouvelle forme d'éducation devient nécessaire. Alors, Eulalie se met à faire connaître son rêve, d'apporter une solution à ce besoin pressant. Et à ce sujet, c'est un abbé Archambault qui rappelle ses fréquentes visites à Belœil, ses conversations avec Mademoiselle Durocher. Il notait ce qui suit, je me rappelle lui avoir entendu exprimer le désir de l'existence d'une communauté de religieuses enseignantes qui établirait dans chaque paroisse de petits couvents où il y aurait seulement une couple de sœurs et où les jeunes pauvres comme riches recevaient d'abord une bonne éducation religieuse. Elle voit tout petit et c'est devenu immense. Et ce désir fut à l'origine de sa décision à devenir la première postulante canadienne des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie de Marseille. C'est une communauté qui avait été fondée par Masnod, sa Monseigneur de Masnod, dans le sud de la France. Mais elle n'avait nullement l'intention de fonder elle-même une communauté à ce moment-là. Mais les sœurs sont pas venues de là-bas. C'était une époque troublée. Le pays était déchiré par tous ces conflits entre les protestants qui avaient conquis le pays et nous, les catholiques de langue française, qui ne pouvions pas nous soumettre à le chef de leur église qui était leur roi. Et on sait quelle sorte de roi, souvent. C'était des rois impudiques, des rois qui n'avaient des conduites immorales, abominables. Et nous, il aurait fallu quitter le pape et l'unité de l'église. Il n'en était pas question. Il y avait donc des disputes terribles entre français et anglais. Puis question de la langue aussi, puis des écoles, puis toutes les persécutions que les Anglais nous faisaient endurer, et différentes controverses existaient aussi à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que, très ancienne querelle entre les éléments libéraux et conservateurs, on trouve très peu d'écho de toute cette agitation dans les documents laissés par Mère Marie-Rose et par les religieuses de son temps, parce qu'elle était sereine au milieu de tous ces conflits. Puis elle poursuit imperturbablement son but, malgré les persécutions. Et quel était donc ce but? Mais son but était d'honorer Jésus et Marie en présentant la société, à notre société. Puis à l'Église, un groupe de religieuses qui, par le sérieux de leur engagement personnel et par leurs compétences professionnelles, seraient attentives aux besoins de leur temps. Puis, plus particulièrement, en ce qui a trait à l'éducation de la foi, et cela de préférence, parmi les plus pauvres. Et Mère Marie-Rose a ouvert une école pour l'éducation des pauvres, à côté du pensionnat de Longueuil, et cette coutume d'assurer parallèlement, si on peut dire, l'éducation aux défavorisés aussi bien qu'aux riches, s'est maintenue, jusqu'à ce que les paroisses ou les commissions scolaires assument la responsabilité de l'enseignement. Mais ce qu'elle veut, c'est que la communauté a été institué avant tout pour les âmes les plus abandonnés. Elle a ça au cœur, vrillé au cœur. Il y avait chez Mère Marie-Rose un désir de dépassement. Qu'elle concrétise, si on peut dire, dans son souci de procurer à ses jeunes professeurs, les jeunes religieuses, une préparation professionnelle, normale, nécessaire. On parle de sœur Véronique du Crucifix et sœur Thérèse de Jésus, qui ont été envoyées à Montréal pour y recevoir d'abord une formation pédagogique de base, et plus tard, des cours de perfectionnement. Elle y tenait. Qui a-t-elle choisi, Mère Marie-Rose? Elle a choisi les frères des écoles chrétiennes. C'était une initiative audacieuse de sa part, non seulement parce qu'après 2 siècles d'expérience dans l'enseignement, ses frères étaient passés maîtres dans cet art, mais aussi parce que cette congrégation avait comme premier objectif l'éducation des pauvres. J'en profite pour saluer les frères des écoles chrétiennes auxquels notre pays doit tant et qui sont si malheureusement oubliés souvent. Douée d'une foi exceptionnelle, la bienheureuse Marie-Rose du Rocher avait aussi une confiance qui transporte les montagnes. Elle croyait en l'avenir et dès sa jeunesse, alors que les plus grands espoirs lui semblaient permis, la maladie lui a fermé l'une après l'autre toutes les portes. Aucune communauté religieuse, je vous signale ça, ne pouvait la recevoir. Elle a beaucoup souffert dans sa jeunesse. Elle a persisté à croire que Dieu la voulait entièrement à lui. Elle a attendu patiemment, mais jamais passivement. Elle a fortifié sa résolution dans le silence, en profitant son séjour à Belœil pour travailler pour Dieu. Son frère, qui était curé de Belœil, connaissait la légèreté puis les excès auxquels s'adonnaient les jeunes de sa paroisse. C'était comme aujourd'hui, on en parle dans les journaux. Il prévoyait que très rares seraient les jeunes filles qui accepteraient de faire partie de l'association que le père Oblat de Marie Immaculée, le père Telmont qui est venu fonder ici les Oblats de Marie Immaculée, désirait fonder. Et Lalie du Rocher, la bienheureuse du Rocher, au contraire, était convaincue que toute une société pouvait être transformée. Si les esprits et les cœurs des jeunes filles étaient bien dirigés, alors elle a mis toute sa confiance dans la Sainte Vierge. Elle avait du courage de penser qu'on peut changer comme ça du jour au lendemain presque les jeunes. Puis son espoir ne fut pas déçu. La congrégation a été fondée, puis ses résultats sont dépassés les espérances les plus grandes de ce père Telmont Leblanc. Bon nombre de jeunes personnes se sont éloignées des amusements, des dangers du monde, et des platitudes et des niaiseries, du juste pour rire. Au sein de leur famille, elles ont donné l'exemple des pratiques chrétiennes intelligentes, et plusieurs d'entre elles ont rencontré là l'appel que Dieu leur destinait de donner toute leur vie pour l'éducation des jeunes au Québec. En très peu de temps, à l'étonnement général, la congrégation, nouvellement fondée, a dispensé son enseignement non seulement aux jeunes filles des environs, mais aussi aux élèves qui venaient des États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de francophones aux États-Unis qui envoyaient leurs enfants ici. La renommée du couvent s'était déjà répandue, et Mère Marie-Rose croyait aussi que ses sœurs seraient un jour appelées à servir l'Église dans des pays au loin. Mère Marie-Rose a persisté dans sa foi. Même quand, après une si courte vie, elle comprend que la mort approche. La communauté commence à peine à se développer, puis la paix et l'harmonie qui ont régné aux premières heures de la fondation sont maintenant troublées par des différences, c'est normal, qui existent entre les supérieurs ecclésiastiques. C'est pas facile tous les jours. Et financièrement, la survie et plus que douteuse, malgré tout, sa foi reste inébranlable. Et durant sa dernière maladie, Mère Marie-Rose demande souvent qu'on lui lise à haute voix le chapitre de la perfection chrétienne sur la conformité à la volonté de Dieu. Car la perfection chrétienne est dans la conformité à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à cette volonté d'amour que Dieu a sur nous. Dieu ne veut que notre bonheur. La volonté de Dieu, c'est nous montrer le chemin de l'amour. Purement et simplement. Et par là seulement, les sœurs ont pu deviner que la foi seule a permis à leur mère de porter l'épreuve jusqu'au bout. Car elle demeure extérieurement aimable et sereine jusqu'à sa mort. On peut presque dire que Mère Marie-Rose demande même la permission de mourir. Elle regarde Sœur Véronique du Crucifix, son assistante, puis elle lui dit avec un sourire, « Mais pourtant, vous qui par vos prières me retenez ici-bas, allez, laissez-moi donc partir. » Ce n'est pas en elle que Marie-Rose trouvait des motifs de foi et confiance. C'est qu'elle regardait au-delà, hein? Au-delà. Elle regardait comme une fleur regarde le soleil. Avec espoir et confiance, on peut dire qu'elle pouvait entrevoir tout ce... le climat merveilleux du ciel que Dieu lui réserve. Parce que elle sait les psaumes, puis elle pouvait dire, en Dieu, nous jubilons tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. C'est ce que nous allons faire pendant l'éternité. Et c'est ce que nous devrions faire dès ici-bas, jubiler tout le jour. Dans la souffrance, comme dans l'approche de la mort. Dans le deuil, comme dans les difficultés. Dans les humiliations, comme dans les critiques. Parce que Mère Marie-Rose glorifie les saints noms de Jésus et de Marie, en actes et en paroles. Et son influence, vraiment extraordinaire, se propage jusqu'aux États-Unis, au Brésil, au Pérou, au Lesotho, en Haïti. Dans ces pays, il y a des sœurs qui sont en train de faire grandir la communauté. Et elles s'appliquent encore de nos jours à proclamer par leur vie que Jésus et Marie sont leur force et leur gloire. J'en profite pour saluer une religieuse ici à Montréal qui fait beaucoup. Dans le monde de la pensée de Maurice Zundel, c'est Sœur Béatrice Éon, qui a plusieurs groupes à Montréal sous sa direction, se réunissent pour réfléchir sur la pensée de Maurice Zundel. Vous aimeriez étudier la pensée de Maurice Zundel avec une sœur des Saints-Noms de Jésus et de Marie? Vous pouvez téléphoner à 279-0833, 279-0833, Sœur Béatrice. Elle habite face à l'église Saint-Arsène. Il y a là un couvent de 27 sœurs de la congrégation des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Elles se réunissent en particulier au Centre Unitas, où je donne des conférences à l'occasion. Il y a un très beau portrait de Mère Marie-Rose, peint par le grand peintre québécois Théophile Hamel. Très beau portrait de Mère Marie-Rose. Rares sont les fondatrices qui ont eu la chance d'avoir leur portrait peint par un grand peintre. Vous savez que quand elle a été béatifiée, il y a un miracle extraordinaire qui a été c'est le miracle de Benjamin Mozdzel de Détroit. C'est absolument étonnant. Il a été en partie écrasé. On l'a amené à l'hôpital général de Détroit, puis il a été guéri, pour ainsi dire, presque instantanément. Monsieur Mozdzel est décédé finalement en 69, mais il n'a jamais eu à souffrir des suites de son accident. C'est une femme qui peut nous obtenir bien des grâces. La bienheureuse Marie-Rose Durocher, fondatrice de la Congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie.